Ton père est demeuré 3 ans sans moi à Madrid. Il est heureux, mais s'épuise, chargé de toutes les tâches, nobles et moins nobles, d'un peintre de la chambre. Il travaille d'arrache-pied sur les portraits, mais doit aussi diriger l'atelier des copies pour les ambassades ou les cadeaux royaux, outre tous les petits travaux de décoration des palais. Et moi, qui élève 3 enfants à Paris, je n'ose encore tout abandonner pour le rejoindre. La grâce des princes est si volage. Et si ses tableaux ne plaisaient pas? Et si un rival le supplantait? Pour l'instant, Jean a toutes les faveurs du roi, mais il sait qu'il agace. On ne lui pardonne pas d'être français, bien qu'il soit de Montpellier et manie la langue d'oc. Jusqu'où le roi de France va-t-il régir Madrid? Se plaint-on en sous-main. À la cour, ce sont luttes incessantes entre les Espagnols, les Français du roi et les Italiens de la reine. Chaque artiste brigue et intrigue, et les guildes ont le pouvoir qu'elles avaient autrefois à Paris. Philippe V, d'ailleurs, commence à nourrir le projet de créer à Madrid une académie royale de peinture et sculpture. Il en a vu tout le bénéfice à Paris. Donnez-leur la gloire et une bourse, c'est le meilleur moyen de tenir ces fortes têtes par la bride. L'Alcazar de Madrid, ancienne forteresse, est sombre et humide. Le roi, d'ailleurs, ne s'y plaît pas, lui qui a grandi à Versailles. Il a fait construire une résidence d'été pour s'en échapper. L'atelier de Jean est situé dans la vieille Galleria del Sercio, au nord. Même si la vue est belle sur les jardins, il manque cruellement de lumière et sa vue décline. L'hiver, il grelotte et tombe malade. Après le couple royal, il s'attelle au portrait des enfants. À ce jour, il y en a 5. De cette galerie familiale, mon portrait préféré est celui de Ferdinand, deuxième fils du roi Philippe et de Marie-Louise de Savoie. Le tableau est plein de charme, comme l'enfant. Jean est attendri par ce petit prince qui n'a jamais connu sa mère et doit essuyer l'hostilité de la reine. Ton père a longuement réfléchi pour allier le solennel de l'effigie princière au naturel de l'enfance. Il a imaginé son modèle à l'extérieur d'un palais, en haut d'un perron menant à une jolie fontaine. Le petit prince sage tient son rang comme il se doit, sans laisser rien transparaître de l'ennui de ses séances de pose. Fier, dans son armure à moitié cachée par une veste en velours rose saumonné et en soie vieil or, il porte le collier de l'ordre de la Toison d'or. Son gracieux contrapposto et sa main droite tendue empruntent à l'Apollon du Belvédère, qui a inspiré tant de chefs-d'œuvre. Mais le geste prend une autre couleur avec le lévrier à ses ordres, témoignant d'une autorité naturelle. Jean a-t-il choisi l'animal pour citer le portrait de Charles V de Titien ? De tous les modèles qu'il a sous les yeux au palais, c'est le Vénitien et Velasquez qu'il a le plus regardé. Jean travaille sans relâche. Ah, ces fils d'argent, leur nombre et leurs reflets. Il faut être si méticuleux pour bien les peindre. Les brodeuses et brodeurs espagnols, comme Gomez de los Rios, rompus au travail des vêtements ecclésiastiques, lui ont donné bien du fil à retordre. Les galons, les manches, la dentelle, le satin, le jabot, la cravate, même les boutons. Et les plumes roses qui ourlent le tricorne que l'enfant serre sous son coude. La culotte en velours et les bas de soie. Et les chaussures à talons rouges, marque princière. Jean s'applique aussi à rendre l'enfant aimable et souriant, cachant sa mélancolie et sa timidité. Ferdinand en a hérité de son père et est bien solitaire au dire de tous depuis que sa jeune sœur est partie en France. L'enfant est pourtant promis à un glorieux destin. Son frère aîné, Louis, va régner si brièvement. C'est lui qui succédera à son père sous le nom de Ferdinand VI. Il accède au trône en 1746. Si nous n'avions quitté Madrid quelques mois auparavant, il aurait été ton souverain, mon enfant.